Chapitre 8. La Grande Tribune, édition Rhône-Alpes du 8 février 2001. Le corps d'une femme d'une trentaine d'années a été retrouvé sans vie hier matin, selon des informations confirmées par la gendarmerie de Montferrat. Il a été repêché tôt dans la matinée, vêtu et porteur de ses papiers d'identité, dans les eaux glaciales et en partie gelées du lac de Paladru à Charavine, situé à une cinquantaine de kilomètres d'Aix-les-Bains. C'est un promeneur matinal qui a alerté les forces de l'ordre. Une autopsie doit être pratiquée à l'Institut médico-légal de Grenoble pour déterminer les causes du décès. S'agit-il d'un accident ou d'une affaire criminelle? Cette dernière hypothèse semble plausible, car la voiture de la victime n'a pas encore été retrouvée proche du lieu du drame, et on peut se demander ce que cette femme faisait par un froid pareil à proximité de ce lac isolé, aux abords parfois abrupts qui ont déjà causé plusieurs accidents. Olivier T. Lucie pensait au sinistre fait divers qu'elle venait de lire dans sa voiture. Une mort par noyade en plein hiver. La suspicion d'une affaire criminelle. Pourquoi Christophe Gamblin s'était-il intéressé à cet article en particulier, vieux de 10 ans? L'affaire avait-elle été résolue? Les 3 autres journaux issus des archives relataient-ils des faits similaires? Lucie n'avait pas encore eu le temps d'y jeter un œil. Elle était déjà en retard de 10 minutes. Mais elle n'avait désormais plus qu'une envie. Comprendre ce qui avait motivé Christophe Gamblin à s'enfoncer dans les sous-sols de la Grande Tribune pendant ses jours de congé. Elle s'immobilisa quelques secondes devant le mastodonte de briques rouges face à la gare d'Austerlitz de l'autre côté de la Seine. « La maison des morts », songea-t-elle avec appréhension. Un endroit dans lequel des gens qui récemment vivaient encore entraient pour se faire découper. Sur la gauche, des ombres sortaient du métro quai de la Râpée. Juste là, on voyait des panneaux Bastille, Place d'Italie, des endroits agréables pour les touristes. Mais ces promeneurs, ces travailleurs, se doutaient-ils que les pires crimes du tout Paris étaient étudiés avec le plus grand soin à seulement quelques mètres, à l'intérieur de ce bâtiment fondu dans le paysage urbain. Lucie frissonna. Des lourds flocons s'accumulaient sur son blouson, sur les carrosseries des voitures et sur les toits. C'était comme si le temps s'était arrêté, et que le brouhaha, animant d'ordinaire la capitale, avait brusquement été absorbé par la neige. Sous la lueur sobre des lampadaires, le lieutenant de police se sentait piégé dans un décor de film noir. Elle se motiva et entra dans l'Institut médico-légal de Paris. Après avoir vérifié ses papiers, le veilleur de nuit lui indiqua la salle où se déroulait l'autopsie de Christophe Gamblin. En prenant une inspiration profonde, elle s'engagea dans les couloirs éclairés au néon, marchant le plus vite possible. Dans sa tête, les pires images affluaient déjà. Elle voyait les corps brûlés, si petits. Elle sentait les odeurs des chairs calcinées, tellement effroyables qu'il n'y avait aucun moyen de les décrire. Les fantômes, les petites voix féminines la hantaient encore. Entre ces murs, ils appuyaient davantage leur présence et la terrifiaient. Jamais, jamais elle n'aurait dû assister à l'examen post-mortem de l'une de ses propres filles. Ce qu'elle avait ressenti et vécu ce jour-là n'avait plus rien d'humain. Elle accéléra pour atteindre la salle de dissection, incapable de se retourner, de réfléchir, ni même de faire demi-tour. La vive lumière de la lampe cyalitique, la présence de Paul Chenet et du photographe de l'identité judiciaire lui firent du bien. Mais elle ne put ignorer bien longtemps le cadavre, blanc et nu sur la table, dont chaque plaie, chaque ecchymose, rappelait l'enfer que Gamblin avait dû traverser. « Ce n'est pas bien que tu sois là, » dit Chenet. « Je suppose que Franck n'est pas au courant. »«
Tu supposes bien. »
Tu sais que même 1 an et demi après, un transfert est toujours possible.
Je suis prête et je ne ferai pas de transfert. Ce corps n'a rien à voir avec celui de 2 petites jumelles de 9 ans. Je tiendrai le coup, ok?
Chenet glissa ses doigts dans son bouc taillé court, comme s'il méditait.
Très bien. Bon, je l'ai déjà pesé, mesuré, radiographié. On a pris les premières photos. J'ai procédé également à l'examen externe, histoire de gagner du temps. Ce soir à 22h, il y a un concert de Madonna à la télé et tes conclusions.
Chenet s'approcha de son sujet, celui qui désormais lui appartenait. Lucie songea à une araignée qui encoconne sa proie avant de la stocker. Elle inspira doucement et s'avança à son tour. Ses yeux peinèrent à supporter le regard déjà vitreux de la victime.
Les entailles ont été réalisées avec une lame fine. Il s'empara d'un scalpel par la mitre. Comme celle-ci, et très coupante, puisqu'elle est passée à travers les vêtements comme dans du beurre, sans faire d'accroc. Les degrés de cicatrisation des blessures sont différents. Il a commencé par les bras, puis s'est attaqué à l'abdomen et aux jambes. 38 coupures réalisées, je dirais, en une petite heure de temps. La victime était habillée.
Lucie n'avait pas ôté son blouson. Il faisait bien trop froid et rien dans cette salle ne pouvait apporter un peu de chaleur.
Elle crispa ses doigts sur le nylon de ses manches. L'assassin avait fait souffrir sa victime avant de l'enfermer dans le congélateur.
Le fils de pute.
Paul Chenet échangea un bref regard avec le photographe et tout sauta.
Il y a de nombreuses lésions au niveau des cheveux et des poignets. Il était attaché et a tenté de se débattre, en vain.
Abusé sexuellement ?
Non, pas de traces.
Lucie se frotta les épaules. Le fumier qui avait mutilé Christophe Gamblin lui avait au moins épargné ça.
Et après la torture, la congélation ?
Je suppose. Aucune des lésions faites au scalpel n'était mortelle.
Jamais l'assassin n'a paniqué ni ne s'est laissé emporter par la colère.
En tout cas, ses entailles n'étaient pas suffisamment profondes pour que la victime se vide de son sang.
Tu t'es déjà coupé le doigt avec la tranche d'une feuille de papier ?
C'est très douloureux, mais ça saigne très peu. C'est le cas ici.
Lucie gardait de longs silences avant de poser ses questions. Elle ne parvenait plus à détacher ses yeux des doigts meurtris de la victime. Ils avaient gratté la glace jusqu'au sang.
Christophe Gamblin avait voulu échapper au piège de Christo. Il avait tenté d'empêcher la mort de s'enrouler autour de lui. Mais il n'avait pas pu.
À ton avis, l'assassin possède des connaissances quelconques en anatomie ?
Difficile à dire. N'importe qui peut faire une chose pareille. Il a agi comme ça. Il claqua des doigts. Pour faire mal.
Une idée de l'heure de la mort ?
J'ai étudié les graphiques de température et les caractéristiques du congélo. Je pense qu'il est décédé aux alentours de minuit, à plus ou moins 2 heures près.
Chenet continuait à préparer avec soin son matériel.
Après l'autopsie, il faudra que je te parle de l'affaire de Grenoble dont on m'a envoyé le dossier en fin d'après-midi. T'es au courant ?
Lucie songea aux faits divers qu'elle venait de lire dans la voiture et qui la titillait.
Pascal Robillard m'a brièvement parlé de cette histoire de noyé dans un lac de montagne. Je suis aussi là pour cette raison.
Paul Chenet renoua avec fermeté sa surchemise bleue dans son dos et le visage grave se positionna à l'arrière du sujet.
Je vais scalper et ouvrir. Reculez un peu.
Lucie, tu n'es pas obligée de...
Je t'en prie, ça va aller.
Chenet se mit à l'ouvrage. Il ne portait pas de masque.
Lucie avait appris qu'un jour, il avait deviné qu'une victime avait ingurgité du rhum rien qu'en ouvrant son estomac et en reniflant les odeurs.
La flic recula de quelques pas. Elle se rendit compte que ses jambes la soutenaient un peu moins.
La première phase de l'autopsie, où le médecin retirait la peau du visage pour accéder au crâne puis au cerveau, était la plus difficile à supporter. Parce que d'une part, il y avait le bruit de la scie, les giclées d'os et de sang, mais surtout, on touchait là au peu d'humanité qui restait au cadavre. Ses yeux, son nez, sa bouche. Le médecin légiste suivit la procédure de l'autopsie à la lettre, tandis que le photographe bombardait de clichés qui pourraient être utilisés lors d'une expertise médico-légale, au tribunal par exemple. Ablation du cerveau, coupe du menton au pubis, prélèvement d'humeur vitrée dans les yeux. Dans la première heure, l'ensemble des organes passa sous sa lampe et sur sa balance. Pesée, étude de l'aspect et de la couleur pour les empoisonnements éventuels, rouge framboise pour le monoxyde de carbone, vermillon pour le cyanure, recherche de lésions internes. Sous la table en acier inoxydable, les fluides bruns et rougeâtres gagnaient les tuyaux d'évacuation. Par des gestes précis, millimétrés, le légiste analysa le contenu de l'estomac. Il préleva des échantillons qu'il vida dans 2 petits tubes et qu'il étiqueta avec précaution. Il ouvrit la vessie par le dessus. Là aussi, il fit des prélèvements.
Pleine d'urine. Le froid extrême a dû l'empêcher de se soulager. Tout cela va partir pour la toxico.
Lucie se passa une main sur le visage. Elle ne sentait plus les odeurs. Ses cellules olfactives étaient saturées, mais le corps continuait à garder sa consistance. L'homme étalé en face d'elle hurlait son calvaire, sa douleur, son impuissance. Lucie pensa aux parents. Ils avaient dû apprendre la nouvelle. Ils avaient dû s'effondrer. Leur monde ne serait plus jamais le même. Elle imagina leur visage, leur réaction. Gamblin était-il leur seul enfant ? Se côtoyait-il encore ? Lucie se sentit transportée dans le temps et l'espace. La salle d'autopsie s'obscurcit soudain. La flic était ailleurs. Elle se rappelait les coups sur la porte de son appartement la nuit. Les lampes qui éclairaient des pièces noires, loin, très loin de chez elle. Le petit corps carbonisé, dont seuls les pieds étaient restés intacts, parce qu'ils avaient dû être protégés des flammes. L'éclat du ciel ithique lui fit mal aux yeux. Subitement, elle se retourna, poussa la porte battante et courut dans le couloir titubante. Elle vomit et se laissa glisser contre le mur, la tête entre les mains. Tout tournait. Chenet arriva quelques secondes plus tard.
« Tu veux t'allonger un peu ?»
Lucie secoua la tête. Ses yeux étaient embués et elle avait la bouche pâteuse. Elle se redressa avec difficulté.
Je suis désolé, ça ne m'est jamais arrivé. Je croyais que...
Elle se tut. Chesnay la soutint et la fit marcher dans le couloir. Je vais nettoyer ça. Petit malaise vagal, ne t'inquiète pas. Je termine l'examen seul et on dira que tu es resté jusqu'au bout. Tu peux aller dans mon bureau au premier. Il y a un fauteuil, tu pourras t'y reposer. Je t'apporterai tous les prélèvements à remettre à la toxico. Lucie refusa.
Je ne veux pas. Il faut que tu me parles du dossier de Grenoble. Il faut que, dans une heure, rendez-vous là-haut.
Il va falloir que tu aies l'esprit clair pour entendre ce que j'ai à te dire. Il s'était déjà retourné et s'engageait dans la salle. Sa voix résonnait encore, tandis que la porte se refermait derrière lui.
Parce que c'est bizarre, cette histoire. Très, très bizarre.